Alors, tous mes voeux de pleine lumière aux uns et aux autres pour cette année, que la lumière grandisse en vous, ainsi que l'amour. Sur la première partie de la règle 2 que nous avons appréhendée la fois dernière, vous auriez des questions, des réflexions.
J'ai relu les règles 1 et 2 et j'ai parcouru les règles 3 et 4. Et j'ai rencontré une difficulté majeure. Je suis un peu désorientée pour tout ce qui concerne invocation et évocation. Il y a le processus d'invocation et évocation, il y a le cycle, il y a le rite, il y a le rituel, il y a la vie. Et de temps en temps, à un moment, j'ai lu que la réussite de l'invocation, c'était l'évocation. Et à un autre moment, j'ai lu qu'on ne peut être dans la vie invocatoire que si on est déjà fusionné. Donc, je ne sais plus où je suis. J'ai du mal avec ces termes.
Bon.
Si vous pouviez les éclairer de façon...
La pensée est pouvoir.
Oui.
L'être en réalisation est dans un processus de relier sa source de vie, en d'autres termes communément appelé le Père. Mais j'apporte la précision sur le fait que le Père est un terme générique et que les Pères sont un et par conséquent ils sont au singulier. Quand on invoque le Père, on invoque en fait les Pères. Étant entendu que le Seigneur du monde, pour notre planète, est cette grande vie qui donne la vie à la planète. Par sa racine de vie, qui est le Logos planétaire. Quelle est la finalité d'une présence terrestre? C'est de devenir ce qu'il est. En d'autres termes, un être divin. Dans ce processus, il a à rejoindre sa source. Il va comprendre que sa réalité, sa racine de vie, est une potentialité qui attend de pouvoir se réaliser sur sa présence terrestre. Il y a donc une démarche spirituelle vers cette source qui devient divine lorsque c'est l'aspect volonté qui est appréhendé. Nous sommes observateurs sur le plan terrestre de ce qui est attendu d'être réalisé pour que ce monde soit conforme à la pensée de son Créateur. Notre observation, notre démarche dynamique est d'invoquer la source de vie pour que affluent les énergies créatrices de réalisation. La puissance de l'être repose essentiellement dans sa pensée créatrice. Notre racine de vie, dans le processus d'inclusivité, et dans l'âme de l'homme céleste, le plan monadique. Deuxième sous-plan. Lorsque nous rejoignons notre racine de vie, nous avons effectué des épanouissements de conscience qui nous ont amenés à saisir que notre être permanent, notre âme à nous, est notre manifestation réelle. Et que cet être permanent a sa racine de vie dans l'âme de l'homme céleste. Donc c'est une relation d'âme à âme. Pour rejoindre notre racine de vie, il faut appréhender les dimensions de conscience des plans, donc des consciences, qui nous mènent à cette conscience de l'homme céleste. Pour atteindre ce rendez-vous, il faut l'invoquer et il faut se qualifier pour être écouté. Ce qui veut dire que la démarche que nous devons cultiver, c'est au niveau du plan manasique, c'est-à-dire du plan mental supérieur, cultiver le vrai. Au niveau du plan bouddhique, cultiver le beau. Au niveau du plan atmique, cultiver le bien de l'ensemble. Et au niveau monadique, la synthèse de ces trois aspects est le pur. Ce qui veut dire qu'un être deviendra puissamment évocateur s'il s'est qualifié dans cette démarche de réalisation.
L'évocation, c'est donc la résultante.
L'évocation, c'est la demande formulée pour le vrai, pour le bien de l'ensemble, pour le beau. Et bien évidemment, mais on va le voir dans la règle qu'on va étudier, et en réalité de groupe. Ce qui différencie un être ordinaire du quatrième règne à un être du cinquième, l'être du cinquième, ce c'est être une unité dans un vaste ensemble. Je le répète, dont les points sont partout, les centres sont partout et la circonférence est nulle part. Ça veut dire un océan de vie. Lorsque l'être invoque, il est préoccupé par le bien de l'ensemble. Et par conséquent, il épouse ce qu'il comprend du dessein divin et du plan divin. Quelle est la différence entre le dessein et le plan ? Le dessein est un idéal potentiel. C'est ce que le Père a conçu dans la réalisation de la manifestation de cette planète. Le plan, c'est le stade où on en est. Le plan immédiat qui est attendu, c'est l'établissement de justes relations. La démarche d'invocation va aller dans ce sens. Si elle va dans ce sens, et que les êtres concernés sont à même de supporter la réponse énergétique conséquente, qui aura comme effet de générer l'aboutissement, eh bien, à ce moment-là, il y a évocation. Quand il y a évocation, la porte s'ouvre avec la maison du Père.
L'évocation qui permet de passer la porte.
L'invocation, si elle se qualifie, alors elle qualifie parce que l'être le fait en unité de groupe. D'accord. Donc en conscience de sa réalité d'être de lumière. Oui. Puisque l'âme est l'être de lumière. Et il est d'autant plus puissant dans son invocation que le groupe est qualifié.
En fait, dans chacune des règles de groupe, il y a ce processus d'invocation et d'évocation. Ça fait partie du...
C'est le mode d'alignement.
Mode d'alignement pour...
Recevoir l'énergie de création.
Du groupe, ici, une fois qu'il passe les portes, au final, comment ça se...
Le groupe a entré dans tel ou tel niveau de conscience. Quand je vous évoque les différents aspects de conscience jusqu'à la racine de vie, vous comprenez très bien que vous avez à la fois des êtres, vous avez des groupes qui sont limités, pour l'instant. Beaucoup de groupes actuellement sont des groupes liés au plan bouddhique, au plan christique. C'est-à-dire essayer de rayonner cette énergie d'amour. Bon. Mais vous avez au-delà de... Là, on est dans le spirituel. Tandis qu'au-delà, on est dans la volonté divine et par conséquent, le divin. Est-ce que tu vois bien les aspects ?
Le divin, c'est
le divin, comprenons qu'aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Que le maître des guides a donné la nouvelle énergie qui est celle de l'amour-sagesse, l'énergie christique, l'énergie du Fils. Mais aujourd'hui, des êtres se sont avancés à appréhender l'énergie propre au Père, c'est-à-dire l'énergie de volonté. Tu n'as rien à voir spécifiquement avec l'énergie d'amour. L'énergie d'amour est magnétique, l'énergie de volonté est dynamique. Vous voyez très bien la nuance entre... l'expression de l'amour-sagesse qui est de faire avec intelligence et juste relation. Mais on n'est pas dans la finalité de l'intention divine. C'est-à-dire, pourquoi le Père a-t-il créé cette planète ? Dans quel est son dessein ? Lequel dessein est inclus dans... le dessin plus vaste du logos solaire, lui-même inclus dans le dessin plus vaste encore du logos cosmique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'invocation et l'évocation nous font entrer dans la science des énergies. Et tout l'entraînement des groupes, c'est de les amener à appréhender, recevoir, rayonner les énergies. Tout repose sur les énergies de vie. Je t'ai apporté.
Ça va? Oui, c'est tout clair.
Ça va pour toi?
Mais en fait, j'ai observé qu'on en parle dans toutes les règles, invocation, évocation.
Parce que la finalité, tu comprends bien que lorsqu'un être a réalisé qu'il n'était plus le centre du monde, mais qu'il était une unité dans un vaste ensemble. Bon, on tombe sur la logique de compréhension que la finalité de la vie terrestre pour l'être humain, c'est de vivre en unité de groupe. Alors, il va y avoir les groupes physiques qui sont, on va dire, des cercles élargis, mais qui, à terme, ne feront qu'un seul cercle, c'est-à-dire l'ashram du Père. En d'autres termes, ashram voulant dire champ de conscience, eh bien, les êtres seront entrés dans... voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme aura abouti dans sa dimension, à savoir être Mercure marchand parmi les reines de la nature, c'est-à-dire le messager des dieux. Ayant comme finalité la sacralisation de la planète.
Quand tu dis Mercure, c'est Mercure Thoth?
Ouais, c'est l'homme divin du quatrième rayon, harmonie, ayant laissé le conflit.
Mais Thoth, c'est pas la lignée Saint-Germain, 7e rayon, c'est
4? Oui, parce que oui, mais fais attention que quand tu parles du 7e, en fait, le 3e aspect, le 3e rayon, lui synthétise le 4, le 5, le 6 et le 7. Alors, la règle 2 vous présente le processus de réalisation à la fois pour le disciple, mais aussi dans la dimension de l'initié qui, lui, vit l'unité de groupe. Et vous avez la traversée du désert. C'est-à-dire effectuer la transmutation de notre non-soi, c'est-à-dire de notre personnalité, pour que cette personnalité soit constituée de vie, de qualité, substance, lumière. Et le processus d'invocation et d'évocation est le mode le plus direct de réalisation.
D'accord.
La plus ancienne que vous avez maintenant et qui date de 12 000 ans, hein, « Conduisez-nous au Seigneur », eh bien, elle a été donnée, on va dire, avec immédiatement le dessein de l'humanité. Dans cette invocation, tout est dit. Hein? Dans cet aboutissement. Alors, la transmutation est quelque chose qui doit être automatique pour le résiduel des lunaires de chaque corps de la personnalité. Hein, c'est-à-dire que comment repérer ces lunaires? Eh bien, dans les relations, vous avez ce qu'on appelle la montée immédiate habituelle de comportement, de réaction. C'est vos vies mineures qui répondent immédiatement en disant « Bah oui, tu nous as tellement accueillis et habitués que voilà, dans telle situation, c'est nous qui donnons la réponse immédiate. » Et là, alors ça, si vous voulez, c'est de surveiller nos habitudes réflexes de conscience et d'effectuer la transformation dans les 12 secondes en disant « Pas question que je nourrisse ce genre de rapport égocentré, mais je veille à être en juste relation. » Et pour l'initier, on n'en est plus à la transformation, mais à la transfiguration, c'est-à-dire, en d'autres termes, comment puis-je aider l'autre à devenir meilleur ? Il m'a traité de con, ah, c'est bien, je vais pouvoir l'aider à devenir meilleur. Mais vous réalisez qu'il peut y avoir encore de vieilles habitudes de réaction. Étant entendu que le dernier terrain de la sagesse à exprimer, c'est l'irritabilité. En vous rappelant que ce qui nous hérite chez l'autre est souvent le terrain de faiblesse, ce que nous avons encore à appréhender. Oui. Quand un être rejoint son groupe terrestre, ce groupe a un stade de réalisation. Il peut être encore en personnalité de groupe. Et là, nous avons la très grande majorité actuellement des groupes. Qui, n'ayant pas encore la clarté de vision, eh bien, ne vont pas être préoccupés par la qualité des membres du cercle, mais bien souvent tombent dans la quantité. Alors vous comprenez qu'ils introduisent des personnes qui ne peuvent bien souvent que peser sur la marge du groupe. C'est pour ça que beaucoup de groupes s'égarent pour l'instant, parce qu'ils sont encore en personnalité de groupe. Le groupe n'est pas plus puissant que son élément le plus faible. Mais par ailleurs, nous devons comprendre que comme il n'y a pas de hasard, eh bien, nous n'avons pas à décider ce que la main du Père, par la Providence, a fait venir. Nous avons simplement à être vigilants que l'être pourra supporter le champ énergétique d'une part, et bien évidemment de s'assurer que ce n'est pas un intrus. La finalité d'une unité de groupe, c'est de penser le groupe en premier. Ça change, hein ? C'est pour cela, si vous voulez, qu'il est impérativement demandé de laisser les personnalités au vestiaire. On ne vient pas au groupe en étant dans un état de critique, d'envie, voilà. La sérénité de la maison du Père, il n'y a ni grand ni petit. Il y a simplement des êtres à un stade de réalisation. Mais vous comprenez bien que ce qu'on appelle l'aspect père est bien souvent une vague de vie plus ancienne que celle de l'humanité actuelle, et que par conséquent, il y a forcément des écarts de progression. Nous avons à surveiller la transmutation, à la fois du groupe et à la fois personnel. Plus un groupe assume, plus il progresse dans la capacité invocatoire. Et là, vous comprenez ce que signifie la voix. C'est que la voix, c'est nous-mêmes. Ce sujet est clair ? Alors chacun doit vivre sans bras dans le groupe, c'est-à-dire soudés l'un à l'autre. Et les initiés étaient représentés sans bras pour bien montrer que leur puissance était mentale. Ben en architecture, dans les temps anciens.
Quand ?
Hein ?
Quand ?
Depuis la Mésopotamie, la Chaldée, la Grèce. Quand il y avait une présentation sans bras, c'était une représentation d'initié.
Et Osiris, par exemple.
Mais quand tu parles de groupe. C'est le groupe de l'humanité, parce que bon, c'est assez mouvant un groupe particulier.
J'évoque la notion de groupe sous l'aspect de l'unicité du cinquième règne. D'accord. Étant entendu, et c'est de ces éléments-là que tu vois la différence. Qui n'est pas séparativité, simplement distinction entre le quatrième règne qui lui est égocentré et le cinquième règne qui lui vit en unicité. Quand les êtres, et là je vous renvoie aux 12 observances, quand les êtres intègrent l'unicité de groupe, ils ont dépassé la transmutation de groupe.
L'identification.
Alors après, c'est l'unité. La distinction entre unicité et unité, elle est justement entre le fait que l'unicité implique le champ de conscience de l'être, c'est-à-dire de l'âme, qui vécu, il n'y a pas de séparativité. Hein ? On est tous dans le même bocal, on fait pipi dans le bocal, on assume le bocal. Après, la démarche, c'est d'aller vers la source. Dans cette lumière, on a une autre lumière.
Juste avant de passer à cette étape-là, donc le groupe étant le cinquième règne, sachant qu'un cinquième du cinquième règne seulement est éveillé, C'est quoi le travail véritablement par rapport à ces 15 non éveillés aujourd'hui? Et puis c'est quoi les délais en fait? Quand est-ce qu'ils ont...
Le délai, c'est le même délai que pour le refroidissement d'un canon.
D'un
canon. Il va reposer sur l'efficacité de ceux qui y assument.
Mais on est sur quelques dizaines d'années ou c'est sur 2000 ans encore ou c'est ça? Je me présente.
T'es bien planifié.
C'est le côté suisse.
La question, il ne faut pas la formuler comme ça. Il ne s'agit pas de dire ça va aboutir quand. Il s'agit simplement de dire je sais, j'assume. Tu ne peux pas faire mieux. Tu peux monter en haut de la tour Eiffel et dire « je vais tout vous dire ». L'hôpital psy n'est pas loin. Nous n'avons pas d'obligation de résultat dans le temps. Nous avons simplement à assumer au mieux ce que nous savons et qui est attendu de nous. Mais nous avons, et c'est là où est la puissance. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la maison du Père, la hiérarchie, mais essentiellement la maison du Père, est potentialité. Nous, notre efficacité, elle est éminemment grande parce que nous sommes au sein de l'humanité. Ce qui veut dire que nous avons un rayonnement, je vais employer le terme, implosant. En d'autres termes, nous possédons une puissance de radioactivité au sein de l'humanité. Alors, tu auras un phénomène qui va être assez lent au départ, mais à un moment donné, cette radiation devient d'une telle ampleur que, paf, si tu veux, ça embrase. Or, quel est le chantier aujourd'hui ? Le chantier aujourd'hui, vous le voyez, c'est l'effondrement de cette civilisation du matériel qui est secouée régulièrement avec la résistance de certains lobbies, et le but, c'est l'émergence d'une nouvelle civilisation de juste relation.
Mais là, du fait qu'il se peut fortement que ça pète de tous côtés assez prochainement, et que le travail de l'occultiste par rapport au mystique, c'est d'être dans le monde et pas en retrait, il y a des êtres du cinquième règne qui vont traverser cette période. Certains vont rester dans la matrice, je dirais, dans ce monde-là, et d'autres vont former des groupes plus clairement définis en dehors, dans la nature, un peu partout dans le monde. C'est...
Oui, mais ça, c'est lié au niveau de conscience. C'est lié au niveau de conscience. Tu sais que...
La scission entre les deux mondes physiques, c'est ça que je veux dire aussi, entre le quatrième et le cinquième...
Non, il faut justement qu'il n'y en ait pas. Et ça appartient au cinquième. Le quatrième règne, comme n'importe quel règne, ne supporte pas l'émergence du règne nouveau. Quand l'homme animal est apparu sur la terre, le troisième règne, le règne animal, s'est déchaîné à tuer les véhicules des hommes animaux. Aujourd'hui, le quatrième règne, eh bien, il a une forte tendance à se déchaîner sur le cinquième. Parce qu'il ne supporte pas. La réalité, c'est quoi ? Ben, la réalité, c'est que quand un être a rejoint sa réalité intérieure d'être, donc son âme, il va disposer d'un mental et d'un accès à la lumière de compréhension qui échappe à l'aide du quatrième règne. Donc c'est comme si c'était une langue étrangère. Il y a 2000 ans, Maitreya l'a expliqué d'une façon beaucoup plus directe. Ne donnez pas vos perles aux pourceaux. C'est quand il veut parler sec, il parle sec, hein, Maitreya. Ça veut dire qu'un cochon, il préfère les patates à des perles. Tu mets un tas de perles, tu mets un tas de patates, tu vois ce que choisit le cochon. Eh bien, l'image est semblable pour l'aide du quatrième règne.
Mais avec ce qui va arriver, le travail est efficace, la même chose pour un aide du cinquième règne. S'il se retrouve avec le quatrième règne, au moment où ça pète, à devoir aller essayer de chipper un bout de poulet au supermarché avant qu'il n'y ait plus rien. Ou s'il est avec un petit groupe, à pouvoir faire un travail méditatif plus suivi, plus important,
Non, faut pas associer les deux aspects. L'être du cinquième règne, même éveillé, il aura en son temps à prendre, à prévenir, à protéger son cercle familial. C'est on ne peut plus logique. Il va pas être le mouton qui va se faire tondre en disant non, allez-y, passez devant moi, je me nourris d'amour et d'eau fraîche. Il faut avoir les pieds sur terre. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus efficace pour rayonner. Parce qu'un être qui montre une compétence dans tel ou tel domaine est plus facilement écouté que quelqu'un qui va être un doux rêveur. Et qui est encore dans les robes du mysticisme. Il faut comprendre que la poussée énergétique de la mer, c'est la rotation. La poussée énergétique du père, c'est en avant. Et le fils, qui est issu des deux, lui, c'est en spirale. Mais nous devons comprendre que, par définition, rien n'est en inertie et que par conséquent, dès l'instant où on va vers le Père, on entre dans cette énergie de pousser en avant. Et là, vous avez un processus auquel il faut être très conscient, à savoir qui n'avance pas recule. Par le fait même que la poussée en avant, elle, est continue. Alors, la règle, en fait, nous dit cesser la transmutation, ce qui veut dire cesser de nourrir avec les fréquences de la Maya, du mirage et de l'illusion, pratiquer de justes relations, et changez-vous, transformez-vous pour grandir dans la lumière de votre être, puis ensuite dans la lumière du Père. Ne perdez pas de vue que nous sommes dans le cordon planétaire. Nous sommes dans le corps dense planétaire, quand nous sommes dans le dense, dans le liquide, dans le gazeux. Il ne faut pas perdre de vue que les mondes de notre personnalité sont dans la matière dense, dans le corps dense planétaire. Pour nous transformer, eh bien, il faut découvrir les beautés du vrai, du beau et du bien de l'ensemble. Ce qui donne le pur. Alors, vous allez me dire, comment aider, mais actuellement nous sommes en méditation. Méditation. Excusez-moi, je suis en état de désagréation. C'est-à-dire que nous semons dans le mental humain. Et que comme des espaces de lumière, eh bien, ces espaces se développent. Et plus il y en aura, moins il y en aura.
Plus il y en aura, moins il y en aura de quoi ?
Ben des espaces de lumière, puisque c'est comme les trous dans le gruyère. Plus il y en a, moins il y en a. Alors, Chantal.
Pour le bruyère, c'est plus facile.
Dans le bruyère, il y a des trous.
Il y a moins de bruyère,
des trous de lumière. Et après, il y aura plus que.
Regarde.
Il y aura plus que du bleu.
T'as des trous. Voilà. Hein, dans l'espace du cinquième règne. Mais dès l'instant où ces trous se rejoignent, eh ben en fait, il y en a de moins en moins.
Ah, d'accord.
Ah, d'accord, tu le vis, et tu le dis vite, hein, ça. Hein.
Non, mais
tu viens de comprendre que dans ton mental, tu as réuni des
oui,
trous.
J'ai réuni des trous.
Merci Bernard.
Merci mon mental, merci Bernard.
Alors, plus dis merci à ton mental. Et ayant fait cela, eh bien, tu as participé à une intensification de la lumière dans le mental humain. Ayant débroussaillé ton mental, tu débroussailles le mental humain.
Pourquoi ? Parce qu'il fait partie du mental.
Parce que c'est une unité mentale. Mais essayer de comprendre ça, c'est que nous sommes dans un pot commun. Et c'est pour ça qu'il faut cesser de s'appuyer sur ce qu'est l'illusion et le mirage. Hein, c'est-à-dire exercer du discernement et pratiquer de justes relations. Et non pas, comme on dit, tirer la couverture à soi. Voilà. Oh. Bon, Cléa assume, hein, si je tombe en syncope. Hein. Ah bon, là.
Ça nous dégage aussi.
Ah ouais. De la transformation, l'être doit s'identifier au Père, qui est en fait cette réalité qui donne vie à sa racine de vie. L'âme de l'homme céleste inclut les monades humaines et débites.
Inclut quoi ?
Les monades humaines et déviques. Ce qui veut dire, comprenons les intentions du Père, d'une part, et essayons de saisir ce qu'il est pour nous, en d'autres termes, un idéal de beauté, de pureté, de perfection et d'amour.
Tu peux juste préciser, Dévic, c'est lesquels ? Pardon, là, je ralentis. Pour moi, c'est pas...
Nous sommes en concordance avec le stade humain, c'est-à-dire les devas solaires. C'est-à-dire les devas qui ont la soi-conscience. Ayant cet horizon de ressembler humblement au Père, et je reprends, vous me dites si... vous avez d'autres aspects, mais pour nous, c'est un absolu de beauté, de pureté, de perfection et d'amour. La question, elle est toute simple, mais le problème, c'est que on se demande si l'être humain est à même de se poser cette simple question, mais qu'est-ce qu'on attend humblement pour lui ressembler ?
On est englué dans notre... Non,
oui, mais ça veut bien dire, si tu veux, le bourbier humain. Hein? Parce que derrière ce qu'on évoque là, vous voyez très bien ce que veut dire inertie de la part du négatif et aveuglement.
Mmh.
Parce que plus un être se laisse aller à descendre la pente, plus il s'éteint à sa lumière intérieure. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a un phénomène de claquer la porte à tout ça. C'est de la foutaise tout ça, c'est de la foutaise.
Oui, mais il grandit en potentialité.
Pas en allant dans ce sens-là.
Ah non, puisque là, il...
Tu dis en potentialité.
Je pense que lorsqu'il sera au plus bas, il faudra bien qu'au moment où il va y avoir... Là, par contre...
Oui, il faut faire quand même attention, c'est que je te suis jusqu'à un certain point. À savoir que le phénomène de balancier fait que tu as été d'un côté, tu repartiras de l'autre. Bon. Mais tu as le risque que l'être reste bloqué dedans. Attention, c'est que c'est pas comme ça, du genre je partirai de l'autre côté. Hein.
C'est pas automatique.
Ah ben il peut rester, ben, c'est les frères noirs. Hein. Les frères noirs, ils restent bloqués dedans. Hein. Donc ça veut dire pour eux, effectivement, ils assument les parcours de rattrapage, ou alors ils vont être annihilés en conscience. Ils vont perdre leur individualité de conscience.
Mais pour faire partie du cinquième règne aujourd'hui, ça veut dire qu'on a nécessairement été un frère noir en des temps...
Non, pas forcément.
Tu as des humanités qui n'ont jamais connu l'errance au négatif et qui ont toujours suivi leur guide. Hein, il ne faut pas croire que... Non, il faut faire très très attention, hein, parce que c'est tu t'en vas sur une interprétation qui me fait penser... Oh là là, Jésus, s'il a été crucifié, qu'est-ce qu'il devait avoir comme karma, hein? Ben voyons. Hein. Hein? Alors que, en fait, si tu veux, c'est le sang versé par tous les justes et les sages pour, par amour, sauver l'humanité. Donc ça veut dire qu'ils acceptent d'appréhender les errances humaines par amour.
Il était adombré.
Pardon ?
Il était adombré.
Non, mon ami. Il a été adombré jusqu'au jardin de Gethsémani.
Voilà.
Ah ben après, c'est pour ça que, attends, quand Maitreya se retire de lui et qu'il est là en réflexion en disant ah, ouais, je dois être l'exemple qui va permettre à l'être humain de comprendre que par les corps énergétiques, la vie est éternelle. Ah ouais, mais c'est moi qui suis crucifié. Bon.
Il a eu beaucoup de niveaux d'initiation, Jésus.
Jésus passait la quatrième. Et sur la croix, il a passé la cinquième. Mais au jardin de Gethsémani, il était à la quatrième, qui était la crucifixion. Gloire à lui, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, Père, que ta volonté soit faite, mais bon, il a eu quand même... Alors vous voyez que ce qui est évoqué en règle de groupe, eh bien... nous les avions appréhendés, étudiés dans la présentation générale. Simplement, les règles, comme je vous l'ai dit, c'est ce que transmettent ceux qui ont emprunté le chemin et qui vous rapportent leur expérience sous forme de règles. Ce qui vient, si vous voulez, au processus de transformation, et puis ensuite à appréhender la lumière claire de la monade en laissant la lumière froide de la personnalité, c'est-à-dire la personnalité dépouillée de ses agitations propres. Voilà. Que chacun soit en lumière claire et froide.
J'avais eu du mal à comprendre cette lumière froide. Et en fait, avec la numéro 3, c'est très bien expliqué sur le fait que c'est la purification de la personnalité qui va permettre d'avoir cette lumière qui est cette lumière froide, c'est sans réaction émotionnelle.
Et mentale. Et mentale. Alors, il faut aller un peu plus loin dans le sujet, à savoir que dans le processus d'invocation, qu'est-ce qui va faire que la porte de la maison du Père va s'ouvrir? Eh bien, comprenons que, en fait, entre le pôle matière et le pôle esprit, il doit y avoir fusion. Ce qui veut dire que l'essence doit s'élever avec l'invocation et être suffisamment pure pour être acceptée dans l'échange en retour du pôle esprit. Derrière l'invocation et l'évocation, vous avez le processus d'échange des deux pôles qui se fait par les myriades de filaments humains existants. Et lorsque des unités de groupe vivent l'unicité de groupe, c'est-à-dire sont non plus dans leur élément personnel, mais vivent vraiment la réalité de conscience de groupe, eh bien, vous avez à ce moment-là le groupe qui est lui-même un canal beaucoup plus vaste, puisque les éléments, en fait, n'ont plus de séparativité. Et d'où la puissance nouvelle pour le groupe.
En fait, là, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a le fait de faire ce travail en groupe, c'est aussi de servir de relais à ces énergies qui sont extrêmement puissantes. Et le fait de travailler en groupe, ça permet de mieux les aider à descendre, en fait.
Alors, comprenons bien, ne perdez pas de vue cela. Quand vous allez au Père, vous allez aussi à la mer. Et comment vous allez à la mer? Par l'épuration karmique. Ce qui veut dire, et vous allez être surpris, c'est que votre passé antérieur, au niveau karma, c'est des strates accumuler des vies passées. Plus vous allez au Père, plus les strates de pollution remontent. Est-ce que vous voyez? Parce qu'en fait, la réalité, c'est Père-Mère. Et donc, il ne faut pas être étonné que ce soit la voie la plus difficile. Si vous voulez le faire cool, faites-le cool, mais à ce moment-là, vous avez des vies devant vous pour assumer la chose. Mais si votre conscience fait que vous réalisez que vous pouvez être précieux pour l'humanité, et pour accomplir le dessein, eh bien à ce moment-là, faites attention que vous rentrez en karma dharmique. Et que le plus bel exemple connu, c'est le peuple hindou qui sait pertinemment la loi de renaissance, mais je fais court bien sûr, on verra plus tard dans la vie suivante. Et en cela, eh bien, ils se privent de l'énergie de vie, c'est ce qui fait qu'ils ont besoin de vitaliser par des exercices leur corps énergétique. Et en cela, l'occidental est protégé parce qu'il ne l'a pas dans sa conscience collective. Plus il y a conscience, plus il y a responsabilité.
Mais tu as déjà parlé, c'est peut-être le cas de certains d'entre nous, d'autres êtres, c'est-à-dire qu'on peut sortir de avoir épuré son karma personnel et dire je tourne le dos à la maison du Père pour venir aider. Et à ce moment-là, ce qu'on va prendre sur soi comme souffrance, comme épreuve dans cette vie-là, là, c'est pour épurer contribuer à l'épuration de l'ensemble.
C'est un acte d'amour. C'est-à-dire que, pour parler autrement, et te donner une vue plus vaste de la chose, pour aider cette planète à retrouver le bon chemin, des êtres d'amour d'ailleurs, d'outre-espace, sont venus, au risque de s'y perdre. Et des êtres s'y sont perdus. Quand tu viens à la matérialité de la Terre, tu prends un risque conséquent. Parce qu'il va falloir que tu puisses dans ta richesse propre pour tenir bon.
Tu veux dire qu'on se sont perdus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à conserver leur vie et leur conscience dans le contexte.
Ils se sont égarés dans les méandres du matérialisme et aujourd'hui ils n'ont plus la lumière de leur être, ils sont banalement humains. D'accord. Alors qu'ils étaient en état divin.
C'est dégueulasse.
Chercher l'erreur.
Est-ce que ça s'appelle un karma? Et c'est quoi la différence entre karma dharma et karma dharma?
Un initié, c'est pas un initié au golf, c'est pas un initié au chant, c'est un initié aux réalités du livre de la connaissance, du livre de la sagesse et du livre de la vie, et par conséquent, à la réalité des lois de la vie. Il sait que dans sa marche en avant, à un moment donné, il comprend pourquoi il est venu sur cette terre. Il sait que il est une unité dans un vaste ensemble et que le service qu'il peut apporter, c'est l'oubli de soi pour que cette planète devienne conforme à ce qu'en attend son créateur. Il le sait, il n'assume pas. Là, il n'a plus de karma personnel au sens du travail sur lui-même. Simplement, il n'assume pas ce que bien souvent le Père lui a donné comme atout. Il y a quelqu'un qui a ressenti qu'il pouvait faire acte de guérison. Il s'attache à ses habitudes, voilà.
Là, c'est parce quoi, là ?
Qu'as-tu fait de tes talents ? Lui dira le Père, que je t'ai donné. Il rétrograde parce qu'il n'assume pas son contrat. Il a un contrat de vie, à un stade donné, si vous voulez, un être dans son évolution, il fait partie de la hiérarchie, il peut faire partie de la maison du Père, il n'assume pas. Bon, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure autrement, c'est-à-dire qu'il y a la marche en avant. Attendez, il sait les choses, il sait qui il est, il n'assume pas.
Pourquoi il n'assume pas?
Parce que il n'ose pas. Actuellement, vous avez des êtres dans le monde, du monde, qui ont des postes clés, qui savent le bien qui devrait être réalisé. Mais ils n'osent pas pour être regardés bizarrement par le monde de référence qu'est le leur. Moi, j'étais agréablement surpris la semaine dernière. Il y a un professeur de pharmaceutique, qui disait, je crois que c'est à Radio Classique, il ne faut pas qu'on se leurre. Tout médicament est un poison.
Tout médicament est un poison.
Oui, forcément. La pharmacie, c'est quoi?
Voilà. Mais oui, mais attendez. Vous imaginez ce qu'il met en cause pour lui? Oh là là, la bête là, oh celui-là, oh.
Bien sûr qu'il va être assassiné.
Oui. Bah, contre lui, forcément. Tout scientifique, Guinness, hein, non, le sait depuis longtemps.
Absolument.
Oh, il l'a glissé comme ça, il n'aura rien.
Oui, mais voilà. Alors c'est pour ça que, voilà, il faut oser. Il faut se oser et se lever. En disant, ça suffit. Actuellement, dans la... l'effondrement de cette société du matérialisme, c'est les pros. La grande majorité des êtres humains aspirent à ça, en disant on va dans le mur, on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est des professionnels de la finance, de la banque et des politiques qui essayent de préserver le système en place. Mais parmi eux, vous avez des aides du cinquième règne.
Et qui parlent.
Hein?
Et qui parlent, qui commencent à parler.
Ah bah oui, ils commencent à parler, heureusement d'ailleurs. Hein? Alors, ce qui est absolument aberrant, c'est que toute cette intelligence sont des donneurs de leçons. Pourquoi ils sont des donneurs de leçons? C'est que vis-à-vis de leur clientèle, eh ben, ils vont être là à dire attention, hein, bon, de l'art du bâton, et puis eux par derrière, c'est des grands voleurs. Il ne faut pas se leurrer au niveau de la bourse. La bourse, sa finalité positive, c'est de permettre le développement de l'économie. Ceux qui sont en bourse, ils pompent le fric des entreprises. Il faut regarder les choses en face. Hein.
Si l'être,
c'est pas le bien, donc,
c'est là où il se prend un karma.
S'il le sait qu'il ne le fait pas, oui. Mais à lui d'être judicieux, hein, il ne s'agit pas d'aller au casse-pipe. Voilà.
Et c'est quoi la différence entre karma et dharma?
Le dharma, c'est le contrat de vie de l'être. Karma, c'est ce qui n'assume pas par rapport à ce qui était prévu. En fait, si tu veux, quand on entend karma, on entend l'écart entre la nature du Père et nos comportements à nous. Le karma, c'est cet écart-là. Le dharma, c'est le contrat de vie que l'être, à un moment donné, a reçu. Mais c'est pas gênant, hein. S'il ne le fait pas en trois vies, il le fera en dix vies. Le problème, c'est que il y a une certaine logique à ce que les choses soient plus compliquées. Je vais t'illustrer ça avec une phrase de Maitreya il y a 2000 ans. Et pour me suivre, ils abandonneront femme et enfants. On ne va pas demander à quelqu'un de l'Église d'expliquer ça. Il ne pourrait pas. Parce qu'il n'y a qu'une seule vie. Alors. à un moment donné, dans son évolution, l'être a assumé ses charges vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis même des entreprises qu'il a. Mais à un moment donné, il doit quitter cette dimension pour devenir universel. S'il reste limité, n'osant pas, ne voulant pas assumer ce qu'il pressent, ce qu'il ressent, mais parce que ses proches vont s'opposer, eh bien, s'il ne le fait pas de lui-même, un jour, dans une vie, il sera obligé de tout abandonner. Hein, c'est pour vous montrer les conséquences que ça peut avoir. L'être sait, mais il n'assume pas. Et ne vous y trompez pas, hein. Moi je connais des êtres qui ont reçu des facultés qu'ils ont eues en leur temps et ils s'accrochent à ce qu'ils faisaient dans cette vie. Voilà. Et parfois, bah, ils ont perdu 7 ans avant de dire « bah oui, dans le fond, j'aurais pu... » Voilà. Alors, ils vont vous répondre « oui, mais j'ai pas eu un parcours facile. » Ce à quoi je leur réponds, mais si vous aviez assumé, est-ce que vous auriez eu ce parcours aussi difficile ? Les êtres sont libres, mais faire attention, hein, c'est pas... Ils portent en eux... chacun doit se dire « mais voilà. » Qu'est-ce que je peux assumer voilà.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi la résistance de la matière, de l'univers, qui l'empêche de raccrocher vraiment à ce qu'elle se passe ?
Il y a une catégorie d'êtres humains du cinquième règne qu'on appelle les gens dits bien-pensants. Et ça, c'est un passage très difficile.
Ils sont déjà en cinquième règne, ceux-là ?
À la porte. À la porte. À la porte, c'est-à-dire qu'ils sont, aspirants. Ah ouais, mais vous avez. Ah non, mais attendez, hein. Ils sont aspirants, ils sont même disciples acceptés, mais ils se conforment à la pensée unique collective. 4/5 du cinquième règne. Quand tu dis il y en a, hein ?
Je comprends plus rien, parce que je pensais que ce cinquième règne incluait une certaine évolution. Précisément, c'est contre...
Mais parce que... Mais non ! Il reste gens dits bien pensants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas. Ils regardent le monde. Ils ont épanoui leur personnalité. Ils ont donc un savoir-faire dans ce monde du matériel. Pour être bien dans la société, il faut faire un business qui va me permettre d'accumuler des biens, des richesses, je serai de belle notoriété, voilà, mon paraître, je serai reconnu, 4/5 du cinquième règne actuellement. Il n'y a pas de séparativité, tu peux très bien retomber. Et ils sont, excuse-moi, ils sont gens dits bien-pensants. Ils vont te donner, comme on dit, en disant, ben non, on va voir comme ça. Alors qu'ils passent à côté carrément de leur réalisation d'être. Ils ont réussi dans la vie et ils ont rétrogradé en tant que réussite de vie.
Alors justement, moi je me demandais dans ces 4/5, est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de ces personnes qui a... assument pas du tout au niveau matériel, c'est-à-dire qu'ils ont une recherche, ils ont une certaine façon peut-être de voir les choses, et puis justement, et c'est quand même du cinquième règne, en fait il n'y a pas que des gens qui ont le 4/5, moi il me semble qu'il y a aussi beaucoup de personnes
à ton avis, perdues. Je te suis dans ce que tu dis, il y en a, ouais. Mais à ton avis, quelle est la réussite de vie si ce n'est que d'assumer son service ? Bah, tu as aujourd'hui des êtres qui sont dans tel ou tel domaine de l'activité, de l'économie, et qui sont chercheurs, sont entrepreneurs, sont créateurs. Ils essayent d'apporter un mieux-être à l'humanité. Ils le font dans une démarche altruiste. Ce sont de grands serviteurs et de grands êtres spirituels. Tu comprends ? Bon, parce qu'ils servent. Ce qui veut dire que ils ont répondu à un idéal en eux avec l'application pratique. Tu en as, et notamment sur la ligne paire, c'est-à-dire 2-4-6, qui sont avec cette faiblesse du mysticisme, c'est-à-dire qu'ils restent dans l'idéal, et ils ont un mal fou à trouver leur application pratique.
Voilà. Et donc ça fait eux, ils font bien partie de ces 4-5.
Moi, je connais un être qui a un idéal de troc. Pour lui, l'argent, parce que il fait une confusion énorme entre le fait que il y a une nuance entre la nécessité d'un mode de facilité qu'est l'argent, hein, avec malheureusement l'usage dévié qu'on en fait. Bon, et il voudrait absolument trouver une application, on va dire, un peu troc. Bon. Mais il est encore trop dans son idéal. Et par conséquent, il ne trouve pas l'application pratique. Hein, ce qu'il faut faire attention, c'est que servir, c'est apporter... évidemment, dans la démarche, tu as cette fonction, on va dire... primordial, qui est de semer dans le mental humain. Hein, dès l'instant où un être est relié à sa racine de vie, il sème dans le mental humain. Mais ça veut dire qu'il est dans cette dimension du bien de l'ensemble. Et par conséquent, eh bien, il respire énergétiquement, donc il invoque et il évoque. Et puis, il lui faut avoir une application pratique. Dire un domaine de service pratique à l'humanité. Il faut avoir les pieds sur terre.
Et alors cette personne qui veut faire du troc mais qui ne trouve pas son application pratique, qu'est-ce que c'est, un karma dharmique s'il est en train de faire ?
Alors pour lui, c'est en fait... un nœud en ce domaine du passé antérieur et pour lequel il n'arrive pas à trouver la porte de sortie.
C'est la résistance. C'est la ligne mère de 4-6, c'est ça. T'as dit la ligne père.
Non. C'est ni père ni mère, c'est la ligne des rayons père et l'autre côté, 1, 3, 5, 7, c'est la ligne impair.
Ah oui, père, impair.
Mais tu comprends bien que la ligne paire est sur la ligne d'amour. Bon, mais tu as les faiblesses des lignes. Tu prends la ligne impaire, par exemple, sur le 1, si tu veux, tu as des dictateurs, tu as des dominants. Bon, sur la ligne paire, tu as des êtres qui sont beaucoup au ciel, en mysticisme, en idéalisme, en dévotion, tu vois.
Comment on se reconnaît bien là-dedans ? En tout cas, moi, je pense bien, mais moi, c'est vrai qu'on a rencontré pas mal de gens qui ont ce potentiel, mais qui sont au service social, qui ne sont, sont pas du tout en expression d'application pratique.
Chacun le ressent, c'est pas, on n'a pas à dire aux êtres ce qu'ils ont à faire, mais c'est simplement le fait de comprendre que on peut très bien servir à la dimension qu'attend le Père. Hein, il ne faut pas oublier, voyez-vous, là j'évoque un autre travers, il ne faut pas oublier que quand l'être disciple se dit « bon, ben, il faut que j'assume quelque chose », il va tomber dans la bévue d'attendre à avoir des grandes choses. Alors qu'il est d'abord testé par des petites choses. Mais il ne les assume pas. Alors après, il dit « oh !»
C'est la spiritualité au quotidien.
Oui, mais il faut aussi marcher divinement à un moment donné.
Un des plus grands travers par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux gens qui ont placé dans les codes cliniques ou qui sont bien développés socialement, bah, c'est facile pour eux, c'est dans tout ce qui est thérapie alternative, justement. De se poser sa plaque de thérapeute et tout ça, et de travailler dans des domaines nouveaux, mais avec des paradigmes anciens.
Ah, c'est pas facile, hein. Regardez là actuellement, on voit une très belle intention de départ aux Indes qui était le microcrédit.
Oui,
hein, et là actuellement, c'est en train de se retourner au sens où le système de pros qui a été mis en place dessus, eh ben, ils sont là à exiger, à serrer la vis, et puis voilà, ils sont en train de transformer le rêve en cauchemar.
Et c'était une belle idée.
Oui.
À partir du moment où on veut faire des profits exagérés, on se trouve une niche, mais ben on a tout faux, c'est tout.
Parce qu'ils sont, tombés là-dedans, hein. Le système est tombé là-dedans. Hein. Ils sont installés des bureaux magnifiques.
Ils ont trouvé une niche.
Ouais, bah c'est donc ça a été mafiaté par le négatif.
Voilà. Transformation.
Venons à l'aspect, puisqu'en fait, si vous voulez, cette règle 2, je vous la laisse lire dans le détail, mais je la superpose bien évidemment à tout ce qu'on a pu évoquer en son temps au niveau des cours antérieurs. Il faut bien comprendre que nous retrouvons dans l'évolution du groupe ce que l'être lui-même a à faire en tant qu'évolution personnelle. Bon. Et quand on est en transformation, eh bien, le groupe doit comprendre qu'il peut dire « je suis cela », c'est-à-dire « je suis une réalité une ». Mais il a assumé sa dimension d'unité de groupe. Quand il réalise, quand le groupe a fait sa transformation, il est en unicité. En d'autres termes, il est la hiérarchie sur la terre. Il lui faut devenir membre de la maison du Père. Et alors, membre de la maison du Père, ça veut dire la synthèse. La synthèse. Donc nous sommes dans le processus que plus il y en a, moins il y en a.
Synthèse des rayons aussi.
Oui, ah oui. Tu comprends très bien qu'un groupe, il va avoir une note majeure. Bon, il va donc être sur un rayon particulier, mais il a synthétisé les 7 rayons. Comme chacun vous avez à faire.
Surtout avec l'émergence du 6e rayon.
Oui, qui lui, par définition, il assume la synthèse. Alors, je reviens sur les symboles que je vous avais mis. Hein ? Alors, sur le chemin de l'allée, l'être énonce le mot sacré à Aum, c'est-à-dire depuis l'unique réalité. Il définit dans l'espace de la mer un cercle infranchissable, et vous avez le Père, le Fils, la Mère. c'est le chemin de l'aller. Et vous voyez que ce symbole est en conformité avec le processus d'expression. Sur le chemin du retour, l'être doit être en conscience, moi, la vie, je suis esprit, matière. Vie, forme. Là, il n'est plus en triplicité, il est en dualité. La forme doit être clarifiée pour libérer la vie centrale. Quand l'être et lune-soleil, cela implique le champ de conscience, j'ai à devenir ce que je suis. Alors il faut oser, hein. Il ne faut pas être là encore dans les robes de l'Église, au sens les mystères de Dieu sont impénétrables et vous ne pouvez pas savoir puisqu'il n'y a qu'un seul fils de Dieu. Hein. La messe est dite. Perdez pas votre temps, de toute façon on ne peut pas savoir. Pas la peine. Ce à quoi le grand guide, il y a 2000 ans, pressentant tout ça, a bien dit « Cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » La seule chose, c'est de ne pas rester en inertie. Plus vous deviendrez invocatoire, plus vous attirerez magnétiquement à vous des êtres. Parce que votre invocation, elle n'est pas que verticale. Et si vous avez notion que la lumière christique est en vous, si vous avez notion que la lumière christique est en vous, eh bien, comprenez ce que dit Maitreya et j'attirerai à moi tous les hommes prêts.
Oui, c'est magnétique en fait.
L'amour est magnétique. La volonté est dynamique. Alors, pour synthétiser les énergies et donc les rayons. Vous avez les trois rayons d'aspect. Le rayon d'intelligence lié à la mère, le rayon d'amour-sagesse lié au fils et le rayon de volonté lié au père. Eh bien, quand vous êtes en transformation et que vous allez passer en transfiguration, vous avez normalement synthétisé le rayon d'intelligence et le rayon d'amour-sagesse. Puisque la sagesse, c'est l'intelligence et l'amour justement équilibrés. Il vous faut intégrer l'énergie de volonté. Pour obtenir la synthèse des trois aspects qui vous donnent accès à l'énergie de vie directement. énergie manasique, énergie christique, volonté vous donne accès à votre racine de vie et donc à l'énergie de vie. Votre démarche doit répondre au processus d'oser, révéler, affirmer, révéler, ressusciter. Ayez la confiance d'être dans la main du Père, ça veut dire que là-haut, ils ne vont pas vous demander des challenges que vous ne sauriez assumer. Donc faites confiance. Que fait l'aide qui a le don de soigner ? La plupart du temps, il répond à une pulsion instinctive. Quelqu'un qui a mal au genou, il se sent en disant « Attends, voilà, il met ses mains, oh, oh, ça marche, oh voilà. !» Donc, comprenez que vous serez aidé. Ne soyez pas là, ne soyez pas aventureux au sens de vouloir, comme on dit, convaincre. Mais laissez venir et répondez.
Aide-toi, le ciel t'aidera.
Voilà. Voilà. Oui, mais les gens inversent souvent le sujet. Hein.
Hein.
Hein, le ciel doit vraiment m'aider et puis.
Le sens de la prière.
Pardon ?
Le sens de la prière, j'en prie pour
vous. Ben oui, mais attends.
C'est son trait.
Attends, tout ça nous renvoie à quoi ? Si vous vous souvenez, les premières présentations. Premier postulat de l'absolu. Il n'y a aucune gloire à être cela. Évolution au mérite. Faut pas perdre ça de vue en disant bah, j'ai à devenir ce que je suis, c'est-à-dire à assumer ma dimension réelle. Et c'est là où vous mesurez ce que l'homme s'est éloigné de sa réalité.
Et il y a des recettes pour essayer de savoir plus vite ce qu'on met ?
Le silence en toi. Écoute la voix du silence qui est en toi. Tu n'as jamais entendu les voix du silence ?
Si, mais pas quand je veux les écouter.
Ah, notre chance, c'est toi qui ferme la porte, mon ami. C'est toi qui ferme la porte, parce qu'en fait, les voix du silence, bah, la première des petites voix, c'est la lumière, c'est la voix de notre être intérieur, hein, quand il nous dit, enfant, hey, t'as vu là, t'as chopé ça. Hein. Donc c'est la voix de conscience, après c'est la voix du Père. Mais le Père te dira, c'est pas parce que je ne vois, je ne dis rien que je ne vois pas. Va au Père, le Père viendra à toi. Qu'est-ce qu'il attend ? Il attend que tu aies les qualités requises. En d'autres termes, être authentique. Voilà. Pourquoi ? Parce que vous avez toujours ce processus d'échange d'énergie. Quand tu invoques, quand le groupe invoque, il transmet l'essence de vie de la mère. Encore faut-il que cette essence soit de qualité de la mère. Tu comprends? Ça veut dire que le groupe, où puise-t-il son énergie invocatoire? Quand ils sont en personnalité, ça va être des intérêts d'un cercle séparé. Alors qu'en fait, c'est le bien de l'ensemble.
Symboliquement, on place la mère en bas, matière, les robes de la mère, l'esprit en haut, le père.
Ça, c'est pour la compréhension mentale.
Parce que, ouais, il y a la mère en haut, en fait.
La mère, comme tu devrais l'entendre, c'est le Saint-Esprit. Les appellations mère, fils, père ne sont là que pour faciliter la lecture mentale. Mais pour un être au fait des choses, il n'y a simplement que le déroulement des fréquences de la vie. Tout n'est que énergie, tout n'est que fréquence.
Tout n'est que vibration.
Tout n'est que vibration, tout n'est que conscience.
Mais absolument.
J'avais quelque chose qui m'interpelle depuis longtemps, c'est qu'on peut prendre symboliquement aussi le père, comme il y a le père terrestre, et le père solaire. Le soleil nuit au père, et derrière le soleil, nourri par l'énergie de Sirius, qui est une énergie mère.
L'énergie de Sirius n'est pas que l'énergie mère en comme telle, puisqu'en fait la hiérarchie de Sirius supervise l'évolution de la hiérarchie solaire et de la hiérarchie planétaire. Donc tu ne peux pas dire, compte tenu de où nous sommes, que voilà, c'est l'énergie essentiellement du mental cosmique et par conséquent voilà, liée à l'âme.
Peut-être maintenant travailler dans une optique particulièrement orientée féminine. C'est-à-dire que maintenant, pour aller
mais au ça, fait, globalement, quand tu dis quand tu dis féminin. Quand tu dis ça, si tu veux, c'est lorsque la vie est une, elle a tous ces aspects-là. Il faut parler simplement que d'énergie émise.
Et qui se trouve à des niveaux de condensation et de densification différentes. La matière.
Oui, tu prends Sirius, il émet son souffle de vie, hein, il rayonne. Mais est-ce que la Terre, dans ces structures, est à même pour l'instant de cueillir telle ou telle fréquence de Sirius? Si tu veux, c'est un processus de relais capteur des énergies de vie. Tu as des énergies qui traversent les univers et qui sont de telle fréquence que, pour l'instant, elles sont inexistantes. L'énergie d'intelligence court, traverse l'espace planétaire. L'énergie d'amour-sagesse traverse l'espace planétaire. L'énergie de volonté divine traverse l'énergie planétaire. Qu'est-ce qui est absorbé par la planète ? Quand tu vois que il y a 2000 ans, le maître des guides a annoncé l'accès à l'énergie d'amour-sagesse, au bout de 2000 ans, où en sommes-nous? Pardon?
Ça bouge.
Oui, non, mais on est bien d'accord, mais c'est pour montrer que en fait. Tu as des énergies de vie qui courent l'univers, mais voilà, elles seront saisies dans un futur, voilà.
C'est un problème de résonance, c'est ça. Si on est accordé, on les reçoit sans problème. Tu sais. C'est comme le poste de radio, ça. Il a capté telle ou telle chose.
Alors, tu vois, quand tu me disais, mais comment... je dirais que le Père te dirait peut-être si tu t'es la même, mais écoute quand je te parle. En toi.
Mais là, en fait, je réécoute les conférences du début, puis je viens de passer où tu disais l'importance de la grande ourse, des Pléiades et de Sirius par rapport à nous. Mmh. C'est cette idée d'une grande vie cosmique qui donne naissance à sept systèmes solaires. Et il y a notre système solaire, et les trois là dont tu parlais font partie de ces sept systèmes solaires reliés d'un logos cosmique en fait.
Et il y a des millions de logos cosmiques, de logos cosmiques.
Alors ça fait un, nous, un, grand ours, deux, Sirius, et puis les trois autres, c'est quoi?
T'as le dragon? T'as d'autres systèmes solaires? Centre du cœur?
Centre du cœur?
C'est un... du logos cosmique. Quant au système qui représente le plexus solaire, il n'est pas opportun de le nommer, pour ne pas attirer, voilà.
Et chacun de ces systèmes est relié à un rayon ?
Il véhicule. Mais tu prends un système solaire, il a les sept rayons, simplement il y en a un qui est majeur.
Voilà.
Au même titre que toi, tu dois arriver à avoir les sept rayons.
Mais mon rayon dominant dit à quel, laquelle c'est...
Bah c'est cette ligne d'énergie sous laquelle ton être a choisi de se placer pour ciseler son diamant.
Et non pas tu gisèles, tu gisèles.
En fait, voyez-vous, en reprenant ces règles, vous apercevez qu'on effectue en fait une synthèse de ce que l'on a évoqué pendant tous les cours précédents. Mais vous y avez été amené d'une façon progressive et détaillée. Alors là, aujourd'hui, bah, vous apercevez que quand vous lisez, en fait, normalement, ça tombe sous le sens, à part quelques précisions opportunes. Mais nous sommes dans, là, sur cette règle, nous sommes dans le... processus de la transformation qui doit être abandonnée, la transmutation, la transformation et la transfiguration.
Qu'est-ce qui doit être abandonné ?
La transmutation. Hein, qui doit être abandonné individuellement, mais aussi en tant que groupe. Alors, comment un groupe serait encore en transmutation ? Bah, parce que les êtres vont se jalouser, vont se critiquer, vont tomber dans l'habituelle tendance à tuer symboliquement l'épicentre du groupe. Hein, parce que en personnalité, ils veulent être... voilà, alors que l'oubli de soi est le meilleur chemin pour progresser et par conséquent, voilà.
Mais quand tu dis « ça doit être abandonné », en fait, ça n'a plus de place, ça n'a plus de raison d'être dans le groupe.
Mais c'est du lunaire, c'est du comportement lunaire. Hein ? C'est pour ça, si vous voulez, que vous aurez ultérieurement dans les voies du silence, vous aurez des contacts grandioses où c'est des vies qui peuvent être en dimension d'un système solaire ou d'un système cosmique. Hein? Et pour vous faire saisir la nature de leur contact, ils vous diront « mon enfant, mon frère ». Vous allez vous étonner, ils vont répondre « tu es la vie, je suis la vie ». Alors, je ne pourrais pas m'exprimer dans la manifestation qui est la mienne. Simplement, il faut avoir la démarche authentique et sincère d'être au niveau de rendez-vous, c'est tout, sans les chercher. Hein, mais ça veut dire qu'un groupe peut très bien permettre à une grande vie de donner son souffle. Halte au feu. Bon, avant que nous ayons... vous avez des précisions, des questions, des...
Là, spécifiquement, parce qu'en fait, c'est riche et créatif, non ? Il y a Moria, Juan Kun, Kutumi, Maitreya, Bouddha, Saint-Germain, il y a tout le monde. On est, comment dire, chapeauté, c'est plus près de quelle énergie ? En tout cas, Maitreya.
Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personnalité du Logos planétaire, ça veut dire... le plan physique cosmique, le plan astral cosmique, le plan mental cosmique est sur le troisième rayon. L'âme est sur le deuxième rayon et la racine de vie du Logos planétaire est sur le premier rayon. En fait, cette grande vie qui a des spécificités particulières qui pour l'instant doivent demeurer, ils déclinent en fait les rayons dans l'ordre des choses.
Dans l'ordre des choses.
Bah, c'est-à-dire, si tu veux, nous sommes très directement concernés en tant que corps dense par le septième rayon. Alors, quand on sait que le septième rayon, c'est l'ordre cosmique, voilà, ça veut dire... Attention les gars, ça va serrer dur. Voilà.
Et ça c'est planétaire ou c'est propre à l'Occident
Non, c'est planétaire.
Parce que Saint-Germain, on aurait tendance à le... par le nom et par son champ d'action physique à l'époque, à l'Occident.
Oui, mais l'aide qui est Saint-Germain... qui a été racosi, c'est aujourd'hui le troisième rayon. Il a été le septième, mais aujourd'hui c'est le Mahachour, c'est-à-dire le seigneur du troisième rayon en tant que synthèse.
Et septième actuellement, c'est qui alors?
Que veux-tu? Tu veux du bâton? Hein, si tu avais le contact, il te dirait « petit joueur, qu'est-ce que tu me déranges ?» Pas d'autres questions ?
Oui. Pardon si je peux revenir sur ce qu'on a dit au début en arrière, mais je l'ai entendu plusieurs fois maintenant, mais moi je ne fais pas bien encore la distinction entre le logos planétaire et l'homme céleste.
Il y a la même distinction qu'entre ta racine de vie et ta présence terrestre, qui s'appelle le Suisse. Ce qui veut dire, si tu veux, que le logos planétaire, c'est en fait ce qu'on désigne par étant cette grande vie au stade d'une évolution planétaire et qui, dans tout son cycle de manifestation, va prendre corps planétaire. Et il s'incarne, c'est l'homme céleste, c'est-à-dire Sanat Kumara. Mais Sanat Kumara n'est qu'une une personnalité de sa grande manifestation.
Donc l'homme céleste, c'est Sanat Kumara qui est la personnalité.
Oui, donc la présence en plan physique cosmique, c'est-à-dire, si tu veux, Sanat Kumara est le logos planétaire, mais il n'est pas tout le logos planétaire.
Et le logos planétaire, lui, est relié plus au Soleil, vers la vie qui est en dessous de lui, vers la vie qui ne vient plus.
Le logos planétaire est en évolution cosmique pour devenir logos solaire. Mais il faut que tu comprennes, pour t'aies une échelle précise des différences, c'est que entre la conscience du minéral et la conscience de l'homme, tu vois la différence. Eh bien, il y a une proportion semblable entre un logos planétaire et un logos solaire. Donc, c'est pas rien. Est-ce que tu vois ? Tu as saisi ou pas, là, Gilles ? Tu as saisi ? Non.
Non.
C'était
juste la fin.
Oui, j'entends bien. Alors, tu prends la vie au stade minéral. Elle a une conscience. Et l'être humain, tu vois les écarts de conscience. Bon, eh bien, proportionnellement, il y a le même écart entre un logos planétaire et un logos solaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des raccourcis comme ça en disant le champ de conscience d'un logos solaire, ça, c'est bien au-delà de ce qu'est la conscience d'un logos planétaire.
Ivanov, il a mené tout le monde vers le soleil directement, physique, mais pour percevoir ce qu'il y a derrière, sans passer par le logos planétaire.
Non, nous sommes dans le deuxième système solaire, donc essentiellement lié à l'âme, le Fils. Et la grande influence sur notre humanité, c'est le rayon d'amour-sagesse qui est directement lié à notre logos solaire qui, lui, est le centre du cœur du système cosmique. La planète, de par le troisième rayon, apporte l'intelligence. C'est le système solaire qui apporte l'amour.
Ça, tu peux redire,
pardon. Notre planète, elle véhicule le troisième rayon, l'intelligence. Le soleil, dans son aspect cœur du soleil, apporte l'énergie d'amour-sagesse. Oui, ça va. Donc quand il oriente vers le soleil, eh ben c'est pour aller directement à la source qui apporte cet amour. Mais il n'y a pas de séparativité, donc ça veut dire, si tu veux, c'est simplement le fait que il vaut mieux se mettre sur la source de l'amour que voilà. D'autant que l'humanité a justement à réapporter à la vie planétaire l'amour.
L'intelligence d'amour.
L'intelligence du cœur.
Du cœur.
Et quand on va vers ça, mais qu'on vise tout de suite plus loin vers le Père, c'est vers quoi alors ?
La volonté de bien de l'ensemble.
Ouais, mais géographiquement.
Les trois aspects cosmiques, Pléiade, Sirius, Grand Ours, il ne faut pas penser que Grand Ours c'est uniquement volonté,
non, je sais.
Que Pléiade c'est uniquement intelligence, que Sirius est uniquement amour. Simplement, c'est leur note dominante pour notre système actuellement. Mais selon les cycles, ça change. Parce qu'un être qui est arrivé à la dimension cosmique, tout ça, pour lui, c'est instinctif. C'est dans sa nature.
Entre les trois, la note dominante,
c'est
laquelle
hein? Pardon?
Entre les trois systèmes dont tu viens de parler...
Grand ours, c'est aspect volonté, Sirius, c'est amour-sagesse, et Pléiade, c'est intelligence.
Merci.
Hein? Mais il est évident, si tu veux, que Logos planétaire, la mère qui lie à nous directement, c'est Alcyone, tous ces aspects divins, elle les a. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été protégée, parce qu'elle prenait toutes les pollutions de ses fils.
Maintenant, on va se mettre sous l'aspect du vin. Hein.
Divin.
Ça va ? Est-ce que c'est assez clair pour vous, le survol du sujet ? Ou est-ce que... ça va, là ? Oui. On est à, si vous voulez, d'une certaine façon, vous voyez la concordance avec la notion de règle, qui est en fait la transmission de ce que les anciens ont intégré. Vous êtes là à dire, j'intègre.
On les observe.